Chapitre 7. Pour faire suite au panégyrique. Il a réussi. Il en résulte que les apothéoses ne lui manquent pas. Des panégyristes, il en a plus que Trajan. Une chose me frappe pourtant, c'est que dans toutes les qualités qu'on lui reconnaît depuis le 2 décembre, dans tous les éloges qu'on lui adresse, il n'y a pas un mot qui sorte de ceci. Habileté, sang-froid, audace, adresse, affaire admirablement préparée et conduite, instant bien choisi, secret bien gardé, mesure bien prise, fausse clé bien faite. Tout est là. Quand ces choses sont dites, tout est dit, à part quelques phrases sur la clémence. Et encore est-ce qu'on n'a pas loué la magnanimité de Mandrin, qui, quelquefois, ne prenait pas tout l'argent, et de Jean l'écorcheur qui, quelquefois, ne tuait pas tous les voyageurs. En dotant M. Bonaparte de 12 millions, plus 4 millions pour l'entretien des châteaux, le Sénat, doté par M. Bonaparte d'1 million, félicite M. Bonaparte d'avoir sauvé la société. À peu près comme un personnage de comédie en félicite un autre d'avoir sauvé la caisse. Quant à moi, j'en suis encore à chercher, dans les glorifications que font de M. Bonaparte ses plus ardents apologistes, une louange qui ne conviendrait pas à Cartouche et à Poulailler après un bon coup. Et je rougis quelquefois, pour la langue française et pour le nom de Napoléon. Des termes vraiment un peu crus et trop peu gazés et trop appropriés aux faits, dans lesquels la magistrature et le clergé félicitent cet homme pour avoir volé le pouvoir avec effraction de la Constitution et s'être nuitamment évadé de son serment. Après que toutes les effractions et tous les vols dont se compose le succès de sa politique ont été accomplis, il a repris son vrai nom. Chacun alors a reconnu que cet homme était un monseigneur. C'est M. Fourtoul. Note. Le premier rapport adressé à M. Bonaparte et où M. Bonaparte est qualifié monseigneur est signé Fourtoul. F-O-R-T-O-U-L. Fin de note. Disons-le en son honneur, qui s'en est aperçu le premier. Quand on mesure l'homme et qu'on le trouve si petit, et qu'ensuite on mesure le succès et qu'on le trouve si énorme, il est impossible que l'esprit n'éprouve pas quelque surprise. On se demande comment a-t-il fait. On décompose l'aventure et l'aventurier, et, en laissant à part le parti qu'il tire de son nom, et certains faits extérieurs dont il s'est aidé dans son escalade, on ne trouve au fond de l'homme et de son procédé que deux choses, la ruse et l'argent. La ruse. Nous avons caractérisé déjà ce grand côté de Louis Bonaparte, mais il est utile d'y insister. Le 27 novembre 1848, il disait à ses concitoyens dans son manifeste : Je me sens obligé de vous faire connaître mes sentiments et mes principes. Il ne faut pas qu'il y ait d'équivoque entre vous et moi. Je ne suis pas un ambitieux. Élevé dans les pays libres, à l'école du malheur, je resterai toujours fidèle au devoir que m'imposeront vos suffrages et les volontés de l'Assemblée. Je mettrai mon honneur à laisser au bout de 4 ans à mon successeur le pouvoir affermi, la liberté intacte, un progrès réel accompli. Le 31 décembre 1849, dans son premier message à l'Assemblée, il écrivait : Je veux être digne de la confiance de la nation en maintenant la Constitution que j'ai jurée. Le 12 novembre 1850, dans un second message annuel à l'Assemblée, il disait : Si la Constitution renferme des vices et des dangers, vous êtes libre de les faire ressortir aux yeux du pays. Moi seul, lié par mon serment, je me renferme dans les strictes limites qu'elle a tracées. Le 4 septembre de la même année, à Caen, il disait : Lorsque partout la prospérité semble renaître, il serait bien coupable, celui qui tenterait d'en arrêter l'essor par le changement de ce qui existe aujourd'hui. Quelque temps auparavant, le 22 juillet 1849, lors de l'inauguration du chemin de fer de Saint-Quentin, il était allé à Ham. Il s'était frappé la poitrine devant les souvenirs de Boulogne, et il avait prononcé ces paroles solennelles. « Aujourd'hui qu'élu par la France entière, je suis devenu le chef légitime de cette grande nation, je ne saurais me glorifier d'une captivité qui avait pour cause l'attaque contre un gouvernement régulier. Quand on a vu combien les révolutions les plus justes entraînent deux maux après elles, on comprend à peine l'audace d'avoir voulu assumer sur soi la terrible responsabilité d'un changement. Je ne me plains donc pas d'avoir expié ici, par un emprisonnement de 6 années, ma témérité contre les lois de ma patrie. Et c'est avec bonheur que, dans ces lieux mêmes où j'ai souffert, je vous propose un toast en l'honneur des hommes qui sont déterminés, malgré leurs convictions, à respecter les institutions de leur pays. » Note, fragment historique, fin de note. Tout en disant cela, il conservait au fond de son cœur, et il l'a prouvé depuis à sa façon, cette pensée écrite par lui dans cette même prison de Ham. Rarement les grandes entreprises réussissent du premier coup. Vers la mi-novembre 1851, le représentant F, élyséen, dînait chez M. Bonaparte. « Que dit-on dans Paris et à l'Assemblée ?» demanda le président au représentant. « Eh, prince ! Eh bien, on parle toujours... »« De quoi ? Du coup d'État ? Et l'Assemblée y croit-elle ? Un peu, prince. Et vous ? Moi, pas du tout. » Louis Bonaparte prit vivement les deux mains de M. F. et lui dit avec attendrissement, « Je vous remercie, M. F. Vous, du moins, vous ne me croyez pas un coquin. » Ceci se passait 15 jours avant le 2 décembre. À cette époque, et dans ce moment-là même, de l'aveu du complice Maupas, on préparait Mazas. L'argent, c'est là l'autre force de M. Bonaparte. Parlons des faits prouvés juridiquement par les procès de Strasbourg et de Boulogne. À Strasbourg, le 30 octobre 1836, le colonel Vaudrey, complice de M. Bonaparte, charge les maréchaux des logis du 4e régiment d'artillerie de partager entre les canonniers de chaque batterie 2 pièces d'or. Le 5 août 1840, dans le paquebot, nolisé par lui, la ville d'Édimbourg, en mer, M. Bonaparte appelle autour de lui les 60 pauvres diables, ses domestiques, qu'il avait trompés en leur faisant accroire qu'il allait à Hambourg en excursion de plaisir. Il les harangue du haut d'une de ses voitures accrochées sur le pont, leur déclare son projet, leur jette leur déguisement de soldat et leur donne à chacun 100 francs par tête. Puis il les fait boire. Un peu de crapule ne gâte pas les grandes entreprises. « J'ai vu », a dit devant la cour des pairs le témoin Hobbs. Note, cour des pairs, déposition des témoins, page 94, fin de note. Garçon de bar, j'ai vu, dans la chambre, beaucoup d'argent. Les passagers me paraissaient lire des imprimés. Les passagers ont passé toute la nuit, à boire et à manger. Je ne faisais rien d'autre que de déboucher des bouteilles et servir à manger. Après, le garçon de bar, voici le capitaine. Le juge d'instruction demande au capitaine Crow. « Avez-vous vu les passagers boire ?» Crow, avec excès. « Je n'ai jamais vu semblable chose. » Note, cour des pairs, déposition des témoins, page 75, voir aussi 81, 88 à 94, fin de note. On débarque, on rencontre le poste de douanier à Vimereux. M. Louis Bonaparte débute par offrir au lieutenant de douanier une pension de 1 200 francs. Le juge d'instruction. « N'avez-vous pas offert au commandant du poste une somme d'argent s'il voulait marcher avec vous ?» Le prince. « Je la lui ai fait offrir, mais il l'a refusée. » Note. Cour des pairs, interrogatoire des inculpés, page 13, fin de note. On arrive à Boulogne. Ses aides de camp, il en avait dès lors, portaient suspendus à leur cou des rouleaux de fer blanc pleins de pièces d'or. D'autres suivaient avec des sacs de monnaie à la main. Note, Cour des pères, déposition des témoins, page 103-185, fin de note. On jette de l'argent aux pêcheurs et aux paysans en les invitant à crier « Vive l'empereur !»« Il suffit de 300 gueulards », avait dit un des conjurés. Note. Le président, prévenu de querelles, ces enfants qui criaient ne sont-ils pas ces 300 gueulards que vous demandiez dans une lettre ? Procès de Strasbourg. Fin de note. Louis Bonaparte aborde le 42e, caserné à Boulogne. Il dit au voltigeur Georges Cully : Je suis Napoléon, vous aurez des grades et des décorations. Il dit au voltigeur Antoine Gendre : Je suis le fils de Napoléon. Nous allons à l'hôtel du Nord commander un dîner pour moi et pour vous. Il dit au voltigeur Jean Meyer : Vous serez bien payé. Il dit au voltigeur Joseph Meny : Vous viendrez à Paris, vous serez bien payé. Note. Cour des pères, déposition des témoins, pages 143, 155, 156 et 158, fin de note. Un officier, à côté de lui, tenait à la main son chapeau plein de pièces de 5 francs, qu'il distribuait aux curieux, en disant « Criez, vive l'empereur !» Note. Cour des pères, déposition des témoins, témoins Fèvre, voltigeur, page 142, fin de note. Le grenadier Geoffroy, dans sa déposition, caractérise en ces termes la tentative faite sur sa chambrée par un officier et par un sergent du complot. Le sergent portait une bouteille et l'officier avait le sabre à la main. Ces deux lignes, c'est tout le 2 décembre. Poursuivons. Le lendemain, 17 juin, le commandant Maisonnant, que je croyais parti, entre dans mon cabinet. Annoncé toujours par mon aide de camp, je lui dis « Commandant, je vous croyais parti. »« Non, mon général, je ne suis pas parti. J'ai une lettre à vous remettre. »« Une lettre ? Et de qui ?»« Lisez, mon général. » Je le fais asseoir, je prends la lettre. Mais au moment de l'ouvrir, je m'aperçus que la suscription portait « À monsieur le commandant Maisonnant. » Je lui dis « Mais, mon cher commandant, c'est pour vous, ce n'est pas pour moi. » « Lisez, mon général !» J'ouvre la lettre et je lis. « Mon cher commandant, il est de la plus grande nécessité que vous voyiez de suite le général en question. Vous savez que c'est un homme d'exécution et sur qui on peut compter. Vous savez aussi que c'est un homme que j'ai noté pour être un jour maréchal de France. Vous lui offrirez 100 000 francs de ma part et vous lui demanderez chez quel banquier ou chez quel notaire il veut que je lui fasse compter 300 000 francs, dans le cas où il perdrait son commandement. Je m'arrêtai, l'indignation me gagnant, je tournai le feuillet, et je vis que la lettre était signée « Louis-Napoléon ». Je remis cette lettre au commandant, en lui disant que c'était un parti ridicule et perdu. Qui parle ainsi ? Le général Magnan. Où ? En pleine cour des pères. Devant qui ? Quel est l'homme assis sur la sellette ? L'homme que Magnan couvre de ridicule ? L'homme vers lequel Magnan tourne sa face indignée ? Louis Bonaparte. L'argent. Avec l'argent, l'orgie. Ce fut là son moyen d'action dans ces 3 entreprises. À Strasbourg, à Boulogne, à Paris. 2 avortements, 1 succès. Magnan, qui se refusa à Boulogne, se vendit à Paris. Si Louis Bonaparte avait été vaincu le 2 décembre, de même qu'on a trouvé sur lui à Boulogne les 500 000 francs de Londres, on aurait trouvé à l'Élysée les 25 millions de la banque. Il y a donc eu en France. Il faut en venir à parler froidement de ces choses. En France, dans ce pays de l'épée, dans ce pays des chevaliers, dans ce pays de Hoche, de Drouot et de Bayard. Il y a eu un jour où un homme, entouré de 5 ou 6 Grecs politiques, experts en guet-apens et maquignons de coups d'État, accoudé dans un cabinet doré, les pieds sur les chenets, le cigare à la bouche, a tarifé l'honneur militaire, l'a pesé dans un trébuchet, comme denrée, comme chose vendable et achetable. A estimé le général 1 million et le soldat 1 louis, et a dit de la conscience de l'armée française, cela vaut tant. Et cet homme est le neveu de l'empereur. Du reste, ce neveu n'est pas superbe. Il sait s'accommoder aux nécessités de ses aventures, et il prend facilement et sans révolte le prix quelconque de la destinée. Mettez-le à Londres, et qu'il ait intérêt à complaire au gouvernement anglais, il n'hésitera point, et de cette même main qui veut saisir le sceptre de Charlemagne, il empoignera le bâton du policeman. Si je n'étais Napoléon, je voudrais être Vidocq. Et maintenant, la pensée s'arrête. Et voilà par quel homme la France est gouvernée. Que dis-je gouvernée ? Possédée souverainement. Et chaque jour, et tous les matins, par ses décrets, par ses messages, par ses harangues, par toutes les fatuités inouïes qu'il étale dans le moniteur, cet émigré qui ne connaît pas la France fait la leçon à la France. Et ce faquin dit à la France qu'il l'a sauvée. Et de qui ? D'elle-même. Avant lui, la Providence ne faisait que des sottises. Le bon Dieu l'a attendu pour tout remettre en ordre. Enfin, il est venu. Depuis 36 ans, il y avait en France toutes sortes de choses pernicieuses. Cette sonorité, la tribune, ce vacarme, la presse, cette insolence, la pensée, cet abus criant, la liberté. Il est venu, lui, et à la place de la tribune, il a mis le Sénat, à la place de la presse, la censure, à la place de la pensée, l'ineptie, à la place de la liberté, le sabre. Et de par le sabre, la censure, l'ineptie et le Sénat, la France est sauvée. Sauvée, bravo ! Et de qui, je le répète ? D'elle-même. Car qu'était-ce que la France, s'il vous plaît ? C'était une peuplade de pillards, de voleurs, de Jacques, d'assassins et de démagogues. Il a fallu l'allier, cette forcenée, cette France, et c'est M. Bonaparte Louis qui lui a mis les poucettes. Maintenant elle est au cachot, à la diète, au pain et à l'eau, punie, humiliée, garrottée, sous bonne garde. Soyez tranquille, le sieur Bonaparte, gendarme à la résidence de l'Élysée, en répond à l'Europe. Il en fait son affaire. Cette misérable France a la camisole de force, et si elle bouge... Ah ! Qu'est-ce que c'est que ce spectacle-là ? Qu'est-ce que c'est que ce rêve-là ? Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar-là ? D'un côté une nation, la première des nations, et de l'autre un homme, le dernier des hommes. Et voilà ce que cet homme fait à cette nation. Quoi ? Il la foule aux pieds, il lui rit au nez, il la raille, il la brave, il la nie, il l'insulte, il la bafoue. Quoi ? Il dit, il n'y a que moi. Quoi ? Dans ce pays de France, où l'on ne pourrait pas souffleter un homme, on peut souffleter le peuple. Ah, quelle abominable honte ! Chaque fois que M. Bonaparte crache, il faut que tous les visages s'essuient. Et cela pourrait durer. Et vous me dites que cela durera ? Non, non, par tout le sang que nous avons tous dans les veines, non, cela ne durera pas. Ah, si cela durait, c'est qu'en effet il n'y aurait pas de Dieu dans le ciel, ou qu'il n'y aurait plus de France sur la terre.